Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Osons l'intime pour cette nouvelle chronique en compagnie de Stéphanie et de Claire du collectif Féminin Naissance Royan Vercors. Bonjour.
Bonjour.
On parle à nouveau cette semaine, Claire, de contraception, donc pour ce deuxième épisode sur la contraception masculine et féminine.
Exactement. Et quelques réflexions, quelques pistes aussi, pourquoi pas, pour éveiller les consciences chez vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutez. Première piste de réflexion, c'est la notion de charge contraceptive. Comme on a la charge mentale, on va dire, qui se démocratise de plus en plus avec ce constat que dans un couple et un foyer hétérosexuel, souvent c'est à la femme qu'incombe la charge. D'autant plus, qui augmente en fait quand il y a l'arrivée d'enfants. L'idée c'est de pouvoir voir les endroits où c'est la femme qui va gérer, qui va anticiper, qui va agir, qui va aussi être leader sur telle ou telle action. Et ça existe aussi concernant la contraception, parce que aujourd'hui en France, c'est quand même 76,2% des femmes qui utilisent une contraception, et donc la grosse majorité, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, des méthodes contraceptives qui sont produites pour elles. Et donc certaines personnes se questionnent sur qui doit porter la charge contraceptive dans un couple hétérosexuel, sachant que la femme est fertile que quelques jours par cycle, alors que l'homme l'est 24 heures sur 24. Et donc ça peut inviter à se poser des questions, déjà de soi à soi, et puis éventuellement amener cette question au sein du couple, parce que c'est pas facile, parce qu'on vient bousculer des choses qui sont établies, je veux dire, même les jeunes filles, hein, moi quand j'étais jeune fille, j'ai pris la pilule aussi pour ça, en me disant c'est à moi en fait, enfin il y a un peu un non-sujet de ça va pas être à mon partenaire homme de s'occuper de ça, je veux dire, les jeunes hommes c'est pas un sujet quoi, alors que les jeunes filles ça en est un.
Moi, j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a tout un historique, c'est-à-dire que c'est nous qui portons beaucoup les conséquences d'une grossesse non désirée. Et je pense que c'est pas pour rien dans le fait que ça soit nous qui prenions les devants aussi.
Mmh. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'en cas de grossesse, effectivement. Et en même temps, moi, il y a quelque chose aussi de cette conscience-là déjà d'amener tout simplement, et puis de ce sujet à pouvoir amener. Après, j'ai envie de dire, si c'est un problème pour la femme dans le couple hétéro, parce que ça se trouve, c'est pas du tout un sujet, elle préfère justement parce qu'en fait, y a pas de confiance, elle a tellement peur d'une grossesse non désirée, etc., etc. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est pas une nouvelle injonction de dire, allez, on fait tout le contraire, et du coup, c'est tout sur les hommes, ou même cette, comme on en parlait un petit peu là, juste avant la chronique, de cette pilule hormonale masculine, on va le voir juste après, mais je veux dire, il y a tellement d'effets secondaires et indésirables à la pilule hormonale, que est-ce qu'on souhaite ça pour les hommes? Moi non, personnellement. Mais en tout cas, d'ouvrir un peu les horizons, les perspectives. Et donc, deuxième piste de réflexion, les fameux effets secondaires et indésirables des hormones de synthèse, plus aussi les contre-indications qu'on ne connaît pas toujours. Donc moi, j'ai envie quand même de vous partager, déjà un peu un historique quand même de avant l'apparition de la pilule et du préservatif au XXe siècle seulement. Les femmes utilisaient des plantes médicinales pour prévenir et arrêter les grossesses. À l'époque, la vie des femmes était quand même bien différente d'aujourd'hui, parce qu'elles passaient alors la plus grande partie de leur vie soit enceinte, soit allaitante. Faut savoir aussi que quand on allaite, les hormones de l'allaitement font que, a priori, ça retarde le retour de couche, et que du coup ça retarde le moment où on est à nouveau fertile, quoique il y a des surprises, c'est pas une science exacte là non plus. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des femmes passent la majeure partie de leur vie à prendre une contraception, le plus souvent hormonale, donc, et avec des effets secondaires parfois conséquents. Et donc, une liste non exhaustive de ces effets secondaires, ça peut être donc douleur au sein, douleur à la tête, nausées, saignements irréguliers et ou très abondants, troubles vaginaux, sécheresse vaginale, modification de l'humeur, ça peut aller de l'irritabilité, de la tristesse, voire jusqu'à la dépression. Modification de la libido, ou perte de libido, troubles digestifs, notamment des ballonnements, ça peut aussi induire des gonflements, des œdèmes, ça peut faire augmenter ou diminuer le poids, ça peut faire qu'il y ait une absence de saignement ou des douleurs aussi pendant les menstruations, ça peut amener des bouffées de chaleur, ça peut amener de l'acné, de la rétention d'eau, pas mal aussi de symptômes qu'on retrouve à la ménopause, au périménopause. La plupart de ces effets secondaires vont venir s'estomper généralement au cours de la deuxième ou troisième cycle sous contraception hormonale. Mais si c'est pas le cas, voilà, l'invitation c'est de pouvoir prendre rendez-vous auprès d'un ou une pro de la santé pour envisager de changer de contraception et de ne surtout pas rester du coup et de ne pas voilà composer avec ces effets indésirables. Certains plus graves parce que comment dire la prise d'hormones de synthèse peut vraiment induire aussi des transformations dans notre corps. Ça peut faire qu'il y a des caillots sanguins qui viennent se former ou migrer, donc soit dans une veine des jambes, ça provoque de la phlébite, soit dans une artère qui irrigue, si c'est dans le poumon, ça provoque une embolie pulmonaire. Si ça vient dans le cerveau, ça peut provoquer un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça peut venir également, cette artère, concerner une artère du cœur et donc provoquer un infarctus de myocarde. Et il faut savoir que fumer augmente de façon importante ces risques de caillots sanguins. Également, les pilules de troisième et quatrième génération ont été et sont toujours particulièrement accusées d'augmenter ce risque de caillots sanguins. La plupart, en fait, ont été retirées du marché il y a quelques années. Les hormones peuvent également augmenter les risques de cancer, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du foie. Et donc, avant de prescrire une pilule contraceptive, la personne qui va vous la prescrire doit toujours analyser les éventuels facteurs de risque et les contre-indications afin de choisir la contraception la plus adaptée pour vous. Donc pareil, si ce n'est pas fait, vous pouvez complètement le demander. C'est même salutaire pour vous, pour votre santé, voilà. Et donc, il y a des contre-indications aussi à cette pilule hormonale, notamment quand on a des antécédents d'embolie pulmonaire, des antécédents de cancer hormonodépendant, quand on cumule la prise de médicaments, quand on fait déjà de l'hypertension, du diabète, quand on fume, quand on est sujette à migraines avec aura et quand on a un IMC supérieur à 35. Donc, si c'est votre cas, voilà, l'invitation, c'est d'être au clair avec ça et de pouvoir faire vos choix aussi de contraception en fonction.
On a aussi un impact sur l'environnement, non, de ces contraceptifs.
Ah, bah oui. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr qu'effectivement, en fait, la prise d'hormones de synthèse vient modifier beaucoup de choses à l'intérieur de nos corps et vont venir s'évacuer, notamment par les urines. Et donc, avec nos systèmes aussi de toilettes actuels, où en fait, l'eau après est recyclée, nettoyée, etc. Mais en fait, il y a rien qui est fait pour nettoyer justement ces hormones de synthèse. Et ce qui fait qu'après, ça se retrouve dans les sols, dans l'eau qu'on boit, etc., etc. Ouais, carrément. Effectivement, ouais. On en parlait déjà la dernière fois, mais certains moyens de contraception peuvent aussi contenir des perturbateurs endocriniens, notamment les préservatifs avec parfum. Et donc, ces perturbateurs endocriniens vont venir perturber du coup le système hormonal déjà mis en place dans notre corps. Et ce qui fait que ça peut induire notamment des désagréments, des maladies, etc. On les retrouve pas que, je veux dire, dans ces moyens de contraception, mais néanmoins, ça peut être aussi intéressant de le savoir pour quand j'achète typiquement un préservatif masculin, est-ce que je fais le choix de l'acheter avec ou sans parfum, sachant que avec parfum il y a de grandes chances qu'il y ait des perturbateurs endocriniens. Mais comme tous les parfums de synthèse, je veux dire dans les lessives, dans les produits ménagers, etc., etc. Petite réflexion aussi concernant la sexualité sans pénétration. Donc on en a un petit peu parlé aussi dans l'autre épisode. Parce que c'est souvent une sexualité qui est... Déjà, on parle pas tellement de sexualité, c'est un sujet tabou, de une. Au sein du couple, c'est pas souvent non plus un sujet, je veux dire, on va pratiquer une sexualité, mais on va pas forcément en parler non plus. Et donc l'idée, voilà, de pouvoir aller s'informer de ce qui se fait d'autre que la pénétration dans une sexualité, sortir aussi de ce qu'on appelle souvent du scénario hétéronormé dans la sexualité, c'est-à-dire des préliminaires, donc préliminaires qui induit quand même que c'est juste près quelque chose, donc avant quelque chose qui va se passer, donc avant, en l'occurrence, la pénétration. Et puis, une fois que la pénétration est faite, et arrêt arrêt de l'épisode, fin, et ciao, bonsoir. Il y a pas mal de livres qui inspirent sur le sujet, enfin, notamment, voilà, j'en parlais, Au-delà de la pénétration, de Martin Page, Slow Sex, notamment, qui, en fait, invite à voir le corps sensuel et la pratique d'une sexualité beaucoup plus dans la globalité de tout le corps, parce que je veux dire, on a énormément de zones érogènes, même parfois juste on n'a pas conscience en fait, mais de voir plus aussi cette pratique d'une sexualité partagée comme un terrain d'exploration, un terrain de jeu, de curiosité, plutôt que de s'enfermer dans la recherche absolue, soit d'un orgasme, soit il faut absolument qu'on pratique la pénétration, qui peut induire aussi énormément de pression, de stress, qui fait que du coup on n'est pas dans le moment, on est en fait dans nos idées de il faut absolument qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, un peu de cocher des cases, quoi, comme si on allait faire ses courses. Et donc pouvoir s'emparer de ce sujet-là, de dire en fait, est-ce que moi ça me convient, est-ce que j'aimerais vivre autre chose, déjà d'être au clair de soi à soi, puis après pouvoir en parler avec là où les personnes avec qui on partage une sexualité, ça peut être super super intéressant. Et aussi ça c'est pas tellement une réflexion mais plutôt un coup de gueule, parce que je vous parlais donc de la fermeture des centres de santé sexuelle en Drôme qui ont été fermés. Donc ça c'est tout récent, hein, ça date de début avril en fait, ça a été acté par le conseil départemental de la Drôme, donc sous prétexte d'économie budgétaire. Donc fermeture de ces centres-là, plus moins 20% au niveau des subventions pour le planning familial. Et concrètement, les conséquences, c'est quoi ? C'est donc la fermeture de ces centres qui faisaient quand même beaucoup de prévention, qui donnaient beaucoup d'informations, notamment aux jeunes, mais pas que, sur la santé sexuelle, et plus qui pratiquaient les entretiens prénataux ou préalables à l'IVG. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui allaient dans ces centres vont devoir aller dans des hôpitaux qui sont déjà surchargés, qui ne sont pas les lieux non plus de la prévention. Et donc la présidente du planning familial aussi pointe du doigt le fait que, encore une fois, c'est une décision gouvernementale qui a été prise comme avec une vision à court terme, en fait, de dire en fait la prévention ça coûte moins cher à long terme que en fait de pratiquer des IVG, etc. Ne serait-ce que déjà en termes d'argent, mais aussi en termes de bien-être en fait, parce que pour rappel, un IVG c'est jamais une solution de confort en fait, c'est terrible en fait pour le corps, pour l'esprit, pour l'émotion. Enfin voilà, c'est quand même vraiment conséquent comme acte et comme choix. Et donc moi j'ai envie de porter le discours du planning familial qui voit ça vraiment comme une attaque contre le droit à l'avortement, parce que on limite en fait l'accès à l'information et donc on va limiter l'accès au recours de l'IVG. Voilà. Et pour terminer sur nos réflexions, moi j'avais envie de nous offrir un temps de partage, si on a envie de témoignage sur peut-être une ou deux anecdotes sur des moyens de contraceptifs qu'on a testés, donc nous, sur nos vécus. Donc je ne sais pas s'il y en a une qui a envie de partager.
Peut-être que je vais commencer avec une anecdote sur mon expérience peut-être de la pilule, qui a été en fait le moyen de contraception que j'ai utilisé quand même pendant un certain nombre d'années à partir de l'adolescence, et peut-être une dizaine d'années. Et c'est effectivement au moment du scandale entre guillemets des pilules de troisième génération, troisième et quatrième génération, que donc on m'avait prescrit une pilule qui me convenait très bien, en tout cas j'avais pas eu l'impression d'avoir d'effets secondaires donc pendant toutes ces années. Et au moment donc de ce scandale, on m'a changé de pilule parce que justement en fait donc c'était des risques d'AVC qui étaient conséquents, donc avec la pilule que je prenais. Et j'avais par ailleurs d'autres facteurs de risque. J'étais fumeuse à l'époque, diabétique. Enfin, voilà, je cumulais un petit peu, donc on m'a changé de pilule. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte des effets des hormones. C'est-à-dire que toutes les pilules, j'en ai testé plusieurs par la suite. Et je n'arrivais plus, en fait, à trouver une pilule qui me convenait. J'avais plein de symptômes, d'effets secondaires. Et j'ai mis longtemps, en fait, avant de retrouver un moyen de contraception qui ensuite me convenait. Alors que le premier, finalement, qui était considéré comme le plus dangereux, m'avait bien convenu pendant toutes ces années.
Mais peut-être, encore une fois, sur le court terme, mais en fait, il y a des fois des choses qui se jouent dans le corps, on ne sait pas, voilà, des cailloux qui se forment, des choses.
Sans doute, oui.
Merci.
Ben moi, j'ai envie de partager peut-être déjà que pour moi, je rêve vraiment d'une contraception plus partagée, que chacun puisse trouver une contraception qui lui convient. Je pense qu'il y a beaucoup finalement d'inconfort globalement avec la contraception. Moi, je rêve que pour mes enfants, ça soit différent déjà. Je rêve qu'on puisse mettre de l'argent dans la recherche sur ces sujets-là, pour trouver des contraceptions qui soient adaptées à différents styles de vie et qui ne soient pas impactantes sur nos santé, déjà. Moi, j'en ai testé pas mal. J'avoue que j'ai jamais été emballée, donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup changé. J'ai pris quelques années, 3 ans, en fait, la contraception hormonale, et quand mon grand-père est décédé, je sais pas, il y a eu un élan de vie qui m'a dit, mais en fait, j'arrête. Et d'un coup, je voyais la vie complètement autrement, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais coupée de moi-même, en fait, avec cette contraception, au point même de voir différemment même l'homme avec qui je vivais à l'époque, mon désir était différent, enfin c'était impressionnant. Et puis peut-être une autre anecdote aussi, après ma deuxième grossesse, j'ai testé le stérilet, et ben là ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'ai eu des règles très abondantes. Moi je suis professeure de yoga et j'avais même du mal, enfin j'en ris maintenant, mais j'avais du mal à tenir un cours, et je me souviens pour mon premier cours avec mes menstruations, mais j'avais du sang de partout, j'ai dû dire à mes élèves que tout allait bien, mais j'ai dû aller me changer au moins 3 fois, enfin c'était vraiment difficile. Donc moi j'avoue que ça a été tout un parcours quand même, cette contraception, pas évident, vraiment pas évident.
Ouais, merci. Et me concernant, j'ai aussi été sous pilule, c'était 3e ou 4e génération aussi, parce qu'en fait je faisais de l'hirsutisme. Donc des poils, avoir des poils à des endroits qui sont pas normaux entre guillemets pour un corps de femme, et du coup j'avais lu quelque part que la pilule ça pouvait faire disparaître ces poils. Alors effectivement ça a été le cas, donc j'étais super contente, j'étais jeune, j'étais pleine de complexes, je sortais de l'adolescence. Et en fait, autour de 25 ans, pareil, quoi, j'ai lu sur le sujet et je me suis dit, waouh, en fait, c'est... Et je crois qu'à un moment, j'ai arrêté, je sais plus, j'ai changé, puis j'ai dû arrêter pendant un mois. Et en fait, j'ai senti comme un élan vital, enfin notamment la libido. J'étais là, genre, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai vraiment comme un peu goûté les prémices de ce que ça peut être d'une vie sans hormones de synthèse. Et donc voilà, ce qui a fait que vers 25 ans, j'ai arrêté. Et là, pareil que toi, Stéphanie, enfin vraiment, je me suis redécouverte en fait, mon rapport au monde, mon rapport à mes émotions. Moi, que je pensais être une personne très stable, très linéaire, en fait, pas du tout. En fait, oui, j'ai des hauts, des bas, mais c'est ça qui fait toute la beauté. Et donc après, j'étais sur tout un chemin de réappropriation, en fait, de ça, de mon cycle, d'aimer avoir mes menstruations, parce que j'avais des aménorrhées aussi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, donc j'avais mes menstruations tous les 9 mois, par exemple. Donc en fait, j'ai aussi mis des choses en place, voilà, pour les réinviter dans ma vie. Ça a fonctionné, c'est vraiment... Je suis super contente de ça. Et du coup, depuis... moi, je suis plutôt partie sur explorer la sexualité non pénétrative, en fait. Et je me rends compte que c'est pas toujours évident, parce qu'en période ovulatoire, il y a un truc qui est très... c'est... Le corps, il a pas envie, hein, en fait, de pratiquer cette sexualité non pénétrative. Mais néanmoins, c'est hyper riche, en fait. Ça ouvre plein d'horizons, plein de portes. Et effectivement, de pouvoir aussi l'amener au sein du couple comme une discussion et de ce partage de cette charge comme... juste une des bases qu'on pose dès le début, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui.
Eh bien merci Claire et Stéphanie pour ces partages et pour cette chronique donc sur le thème de la contraception. Donc c'est une chronique en 2 épisodes à retrouver sur notre site internet radioroyant.fr. Merci à toutes les deux, donc vous êtes membres, je le rappelle, du collectif Féminin Naissance Royan Vercors et vous nous proposez chaque semaine une chronique. Osons l'intime, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, et pour de prochains thèmes, n'hésitez pas à poser vos questions par mail, donc à Claire et Céline, au mail suivant féminin naissance@gmail.com.